C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de Ça tient la route, toujours en compagnie d'Alain Mécana. Salut Alain.
Bonjour Benoît.
Alors, hey, t'as des nouvelles, j'ai hâte d'arriver aux actus. T'as des affaires qui vont faire réagir les gens cette semaine, j'en suis convaincu. On va finalement avoir une Bissonnette de chez Polestar.
Ouais. Oui. On va en faire apprendre c'est quoi Polestar.
Puis j'ai déjà un bon sujet pour la semaine prochaine. On va parler de pénurie d'emploi dans le monde automobile parce que on cherche
bien
beaucoup,
d'autres secteurs,
beaucoup comme bien d'autres secteurs. On va avoir Louis-Martin Janard qui va être avec nous, qui est de chez Canada Motor Jobs, mais ça, on se garde ça pour la semaine prochaine. Et Serroutier, tu nous présentes quoi cette semaine?
Un petit véhicule très modeste qui s'appelle le Porsche Cayenne GTS Coupé.
Ah, c'est modeste, en forme de format, c'est pas si grand.
C'est pas la plus grosse version du Cayenne.
C'est le prix qui est un peu moins modeste, mais j'ai eu l'occasion de le rouder, une belle machine. Moi, je vais dans le format familial cette semaine, le Kia Carnival, qui remplace le Sedona.
Juste savoir, est-ce qu'il est plus beau en personne qu'en photo? Parce qu'il est pas très beau en photo.
Je suis encore ambigu, pour être honnête. Pour te donner le titre de mon texte que j'ai publié sur annuelauto.ca, c'est « Le principe du divan-lit ». Alors, c'est pour te donner une idée. Alors, je suis encore un peu perplexe, mais bon, on essaie de sortir de l'image traditionnelle de la fourgonnette. Mais, tu sais, c'est difficile d'offrir quelque chose de différent quand on veut garder les mêmes caractéristiques. Mais je vais vous en parler tantôt, vous allez voir.
Ça va être bon.
Mais au final, quand même un véhicule intéressant. Alors, tiens, sans plus tarder, les nouvelles. Une que j'ai bien aimée cette semaine dans les actus que tu nous as présentées, qui parle de blanchiment d'argent.
Oui.
Parle-nous de ça un peu.
Écoute, le blanchiment d'argent fait monter le prix des autos au Canada. En fait, il y a deux secteurs, il y a deux informations qui se croisent parce qu'on le sait, là, au Canada, on est aux prises avec la hausse accélérée du prix des immeubles. Ça, c'est documenté, surtout dans les grandes villes.
Ça fait déjà un bout de temps.
Oui, exactement. Montréal, Toronto, Vancouver ont des problèmes par rapport à ça. C'est très inquiétant. À Vancouver, on s'est même aperçu que la situation profitait aux criminels à cravate internationaux qui profitaient pour blanchir de l'argent. Et la même chose vaut pour le secteur automobile canadien. Ça, c'est ce qui est inquiétant pour les gens qui veulent acheter des voitures. Donc, des gens se pointent chez les commerçants de voitures neuves ou usagées, surtout des voitures usagées, et paient rubis sur l'ongle, pour pas dire cash, pour des véhicules en tout genre. Ils entassent ensuite leurs achats sur des navires qui exportent les véhicules à l'étranger, en Asie surtout.
OK, donc ils achètent même pas pour eux, là.
Non, ben, c'est un processus. C'est pour blanchir de l'argent. Donc, ils sont revendus en Asie rapidement. Et ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est qu'ils sont généralement vendus à un prix sous les prix moyens du marché, même parfois même moitié prix. Donc, c'est pas une question. Ils font pas ça pour faire de l'argent, mais ils font ça pour littéralement blanchir de l'argent. C'est-à-dire que c'est
de l'argent sale.
Suspect qui redevient tout d'un coup légitime parce qu'il a passé à travers une transaction avec des entreprises crédibles.
Et l'argent qu'on crée à partir de là devient de l'argent légal.
Exactement. L'enquête publique qui a publié, en fait, cette découverte-là, a été menée en Colombie-Britannique. Elle a permis de découvrir que des véhicules récréatifs, entre autres, utilisés dans ce genre de stratagème, ont permis de blanchir pour 47 millions de dollars. Dans les derniers mois. Du côté des voitures, camions et autres
pièces automobiles. Là, on ne parle pas de la dernière année.
Tout récent. Donc, du côté des voitures, camions, tout ça, ce serait environ 24 millions de dollars. Et ça, c'est ce qu'on sait, là, ce qu'on connaît, ce qu'on a pu documenter. Donc, c'est un phénomène.
Comme un jour a dit Jean Perron, c'est la pointe de l'asperge.
effectivement tout à fait vrai. C'est un problème aussi qui est d'envergure nationale, parce que là, on parle de l'Ouest, mais c'est aussi valable partout où il y a des ports. Donc, le port de Montréal, entre autres endroits comme ça, on peut imaginer que cette pratique-là a lieu.
Oui, et tu sais qu'on vérifie à peu près 3 % des conteneurs qui transitent par le port de Montréal.
Exact.
Et cette moyenne-là n'est pas beaucoup plus élevée dans les autres ports à travers le monde.
Exact.
Alors, vos chances de vous faire ramasser sont de 3 %.
Et souvent même, c'est au niveau de la transaction qu'on blanchit l'argent. C'est-à-dire que les acheteurs vont payer à comptant à travers une application mobile, une application de paiement mobile qui valide la transaction, donc qui rend l'argent légitime. Ou alors, ils vont effectuer un dépôt pour réserver un véhicule neuf à venir et ils vont ensuite changer d'idée pour être remboursés. Et là, tout d'un coup, la mise qui leur revient vient d'une source légitime, donc l'argent est
blanchi. L'argent est propre.
C'est souvent l'affaire de 2, 3, 4 000
$ Ouais.
Mais t'en fais 10, 12 fois, puis pouf, t'as quand même...
Ah, ben quand tu prends la file d'attente de plusieurs reprises, ça fait vite 100 000 $
Ben tu sais, quand on annonçait là, il y a quelques années les véhicules nouvellement mis en marché, ou en tout cas mis en marché dans un futur proche, puis on ouvrait les portes des sites web pour la précommande. Plaisir. On en a déjà 500 000 de précommandés. Ben, il y en a quelques-uns là-dedans qui ont dû retirer leur dépôt ensuite. Et on peut imaginer que c'est une façon de effectivement, de blanchir de l'argent. En tout cas, c'est ce que l'enquête en question indiquait.
Puis là, on a-tu trouvé, on va-tu pallier à ça? On va-tu faire quelque chose?
Ben déjà, d'en parler, je pense que ça devrait alerter les autorités. Tu sais, au niveau de l'industrie, il n'y a pas grand-chose à faire. Les vendeurs n'ont pas les ressources, les commerçants, pour identifier la provenance d'un paiement comptant.
Non, quelqu'un vient payer son auto comptant, tu dis, bon, ouais. tu prends le comptant. Puis il part avec l'auto.
C'est ça. Évidemment, les ressources sont limitées de ce côté-là. Du côté financier, on dit c'est la faute. C'est la faute revient ou la responsabilité revient au commerçant. Donc, il y a une chicane là, à savoir c'est à qui la responsabilité. Mais il faut, c'est vraiment un problème qu'il faut créer. Puis même si on enlève l'élément criminel, le fait que les États-Unis, par exemple, viennent souvent acheter des véhicules chez nous, ça a toujours un effet à la hausse sur le prix des produits au Canada. Oui. Donc, il y a vraiment il y a une situation là qui pourrait être...
En fait, ça crée une hausse et une rareté. Parce que eux autres les prennent en grande quantité. Donc, les gens, ils sont peinent à en trouver. Puis quand ils en trouvent, ils payent très cher parce qu'il n'y en a pas gros.
Je t'entendais plutôt à la radio parler de la pénurie de puces électroniques et l'effet que ça a sur le marché du neuf. Il y a moins de véhicules. Donc, ça fait augmenter les prix des véhicules d'occasion. Donc, ça contribue à ce phénomène-là aussi. Donc, tu sais, la boucle est là. Il faut vraiment revoir. Il faudrait nettoyer, dans le fond, l'industrie.
Il y a un ménage à faire.
Effectivement, pour la rendre plus propre.
Autre nouvelle intéressante, et là, c'est la théorie du verre vide ou du verre plein.
Oui, exact.
Parce que tu nous dis qu'il y a un acheteur de véhicules électriques sur 5 qui revient à l'essence.
Exact.
Ça veut dire qu'il y en a 4 sur 5 qui restent à l'essence.
Oui, ce qui est une bonne nouvelle dans l'absolu, mais dans le relatif, comme on veut accroître le nombre de véhicules électriques sur les routes, ça serait le fun qu'il y ait 5 sur 5 qui retournent à l'électricité. Donc ça, c'est la partie moins bonne nouvelle.
Ça, c'est une étude californienne que tu me disais.
Ouais, ben il y a deux études, en fait. Okay. Il y a l'Université Davis de Californie qui a compilé, en fait, les résultats de 5 sondages menés en 2015 et 2019. Et on a découvert que, je pense que le chiffre exact, c'est 18% des gens qui ont acheté un premier véhicule électrique et 20% des gens qui ont acheté un premier véhicule hybride branchable ont ensuite acheté un véhicule strictement à essence. Il y a une raison bien simple pour laquelle ils ont fait ça et pourquoi ils sont déçus par rapport aux véhicules électriques, c'est l'absence d'infrastructures de recharge adéquates, plus spécifiquement des bornes de recharge à la maison de niveau 2. Ça, le niveau 2, c'est la prise qui te charge en 4-5 heures comme voiture
électrique. La 240.
Exactement, contrairement à celle qu'on branche dans une prise. Souvent, la voiture vient avec un fil, puis ça, tu le branches dans le mur, puis ça prend 18
heures. La 120, des grosses piles, ça prend 3 jours.
Exactement. Donc, l'absence de cette infrastructure-là, si on veut, ralentit l'accroissement, ou en tout cas la hausse de popularité des véhicules électriques. C'est peut-être un élément considéré dans le... L'autre élément, et celui-là, il est à la limite plus rigolo, c'est qu'il y a des véhicules, évidemment, la première génération de véhicules électriques était un peu moins performante en termes d'autonomie que ce qu'on souhaiterait. Et on identifie dans le sondage 3 marques en cause qui ont vraiment nuit à la réputation des véhicules électriques. Fiat avec la 500e, qu'on n'a pas eu ici, mais qui était...
Qu'on n'a pas eu ici, puis c'est une bonne chose qu'on ne l'ait pas eu ici.
Exactement. Ford, qui, moi, m'avait surpris. Mais pensons au C-Max, qui était hybride et hybride branchable, qui était plutôt moyen. La Focus électrique, qui avait une autonomie très courte. Et enfin, Toyota. Dans le cas de Toyota, je pense que c'est la RAV4 électrique qui a été mise en marché en Californie
pendant
quelques
années.
Qu'on n'a
pas eu non plus ici.
Qui était aussi pas particulièrement performant. Donc, première génération un peu bâclée de véhicules électriques, nuit à la réputation. Et sans expliquer vraiment pourquoi, les chercheurs ont découvert aussi que les femmes propriétaires d'un véhicule électrique étaient plus susceptibles de revenir à l'essence que les hommes.
OK. Problème d'anxiété ou...
À mon avis, c'est que... Et je ne veux pas jouer sur les stéréotypes, mais je pense qu'elles n'aiment pas s'embêter plus que ça avec leur véhicule. Il faut juste qu'ils marchent et qu'ils fassent ce qu'ils promettent faire.
Ouais. OK.
Donc, c'est peut-être un peu
mais il y a quand même 80% qui sont satisfaits. Alors, moi, je vois ça dans ce sens-là.
C'est une bonne cote de satisfaction.
Bon, c'est une très bonne cote de satisfaction. Il y a encore des petites choses à régler, effectivement. Le réseau d'infrastructures va suivre la progression des véhicules électriques. Ça a été suffisant pendant un temps. Mais il est clair qu'on devra augmenter le nombre de bornes rapides.
Je pense que les bornes à la maison, et à la maison et dans les immeubles, tu sais, les copropriétés, les immeubles locatifs.
On en a parlé il y a quelques semaines d'ailleurs.
Les solutions sont là.
Ça va être à voir aussi. Autre nouvelle qui est sortie du site américain Bloomberg que j'ai lu cette semaine, c'est un avertissement. Voyons-le comme ça. C'est pas une nouvelle coulée dans le béton. Mais on parle que la production de pneus pourrait tourner au ralenti dans quelques mois Parce que l'approvisionnement en caoutchouc naturel, qui est un ingrédient essentiel dans la fabrication d'un pneu, provient d'un arbre qui s'appelle l'évire, qui est cultivé principalement en Asie du Sud-Est. Et on a eu, avec la pandémie, un arrêt de plantation au niveau des arbres. Et on a eu beaucoup de maladies qui ont décimé une partie de la population de ces arbres-là. Et là, ça prend 7 ans avant qu'un arbre soit mature et puisse donner le fameux latex. C'est un espèce de liquide laiteux blanc, là, le caoutchouc naturel. Et là, on dit, bon, du côté des fabricants de pneus, on n'est pas encore à la panique. On dit, non, ça va, il y a des hauts, des bas, mais on arrive à fournir. Mais si on regarde un peu plus loin dans le temps, peut-être l'année prochaine ou l'autre année, il va y avoir un trou à un moment donné où on risque peut-être d'avoir certaines difficultés. Alors, c'est un avertissement qui est servi de surveiller le milieu de la fabrication des pneus de près parce qu'effectivement, on pourrait arriver à une pénurie à un moment donné. Puis là, bon, on le sait. Une voiture pas de pneus, c'est pas vraiment l'idéal, ça va pas très bien. Alors, on travaille, je sais qu'il y a plusieurs laboratoires de recherche à travers le monde qui travaillent sur des alternatives, si on veut, aux pneus, aux caoutchoucs naturels. Michelin, Continental, Goodyear sont là-dessus. Et ça pourrait être une solution à moyen terme, disons. Autre nouvelle, les premiers taxis sans chauffeur sont en opération en Chine. Là, on avait un projet pilote depuis octobre qui roulait. Les gens, en fait, ça coûtait même rien. C'était un projet pilote qui était ouvert à tout le monde. Les gens prenaient le taxi. C'est une partie de la ville de Pékin. Pour le moment, là, c'est pas un projet qui est à travers toute la Chine, mais seulement à travers une partie de la ville de Pékin. Et là, depuis dimanche, donc depuis quelques jours, ce projet-là est maintenant officiel. C'est-à-dire, bon, les véhicules sont toujours là, mais là, maintenant, il y a une application sur votre téléphone. On appelle le taxi et vous payez. Donc, le service est maintenant officiel. Par contre, pour les premiers mois d'opération, il va y avoir un chauffeur, mais assis à la place du passager avant. C'est-à-dire que c'est un espèce de contrôleur qui va vérifier si tout va bien, si le système fait ce qu'il doit faire. C'est Baidu, le fameux, c'est la compagnie chinoise. Là, Baidu, qui est derrière ce système-là.
C'est un peu le Google chinois.
C'est un peu le Google chinois. Et on va avoir d'ici quelques mois, le chauffeur qu'on appelle le contrôleur dans la voiture va être retiré. Et tout ça va passer par une centrale électronique. C'est-à-dire que chaque véhicule va faire l'objet d'une vérification électronique pendant qu'il roule. Donc, il prendra la place, si on veut, du contrôleur humain dans la voiture. Et là, c'est parti. Ce système-là, ensuite, veut s'étendre à d'autres secteurs de la ville de Pékin, puis après ça, à d'autres villes. On va aller à Shanghai, on va aller à d'autres endroits en Chine et éventuellement étendre le système.
C'est audacieux parce que le réseau routier en Chine, c'est un peu cow-boy, la façon dont les gens conduisent.
Un peu, tu dis?
Disons que le code routier est un peu aléatoire et facultatif par moment dans ce coin-là. Donc ça
C'est quelque chose. Alors, donc ça commence. Il y a déjà Waymo qui a un service en Arizona, je pense, et dans Californie. Ouais. Il y a quelques États américains. On va commencer d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine, un service semblable aux Émirats arabes unis, où il va y avoir des services de taxi sans chauffeur. Donc, tranquillement, là, c'est une réalité qui commence à s'implanter dans les grandes villes, on s'entend pour le moment.
Mais supervision-là, à distance, va être de plus en plus répandue avec les réseaux 5G parce qu'on va pouvoir suivre à distance avec une très courte, des millisecondes de temps de réaction. Voilà. Sans être dans le véhicule pour réagir si le véhicule fait un faux pas.
On parlait un peu de ça. Ben oui, on parlait de ça comme de la science-fiction il n'y a pas si longtemps, là, mais ces services-là existent, vont s'implanter. Puis vous pourrez même prendre un taxi sans chauffeur, probablement avant longtemps. Alors, nous, on prend une première pause, rapido presto, puis on revient avec Hugues Bissonnette de chez Polestar.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Deuxième partie de l'émission, c'est l'heure de notre invité de la semaine. Mais juste avant, je tiens à vous dire que le balado Ça tient la route peut être écouté en ligne sur vos plateformes préférées. dis-je. Spotify, Apple, Google, le site du 98.5 dans la section balado et sur annuelauto.ca. On fait une mise à jour chaque semaine de tous vos, tous les balados. Et si vous avez des questions, balado avec un S à 98.5 FM.ca.
Tu sais qu'on est rendu à notre 30e.
Y a-t-il quelque chose de spécial pour le 30e?
Ben, je veux dire, les gens qui veulent écouter du bon contenu automobile, nos archives sont en ligne.
Toutes les émissions sont là, alors vous pouvez les écouter. Merci de le rappeler, Alain. Alors, notre invité de la semaine s'appelle Hugues Bissonnette. Il est le responsable pour le Canada chez Polestar. Et là, Polestar, on va vous apprendre. Ceux qui n'ont pas entendu le nom, qui l'ont moins entendu, on va vous apprendre qu'est-ce que c'est exactement. Bonjour, Hugues.
Bonjour Benoît, ça va bien?
Ça va très bien, merci d'être là. On va commencer par le commencement, comme on dit. Explique-nous un peu les origines de la marque Polestar. C'est arrivé comment? Et c'est né comment aussi, pour que les gens comprennent un peu mieux de qui on parle?
Ben, c'est simplement, Polestar, c'est la marque suédoise de voitures électriques de performance. On peut dire que c'est un start-up avec un historique de 94 ans. Fondé par la firme Volvo Cars, puis Geely Holding, qui est basée en Chine, qui est en partie propriétaire de Volvo.
OK.
Donc, on profite du engineering, de l'industrialisation, du design qui a été parfait chez Volvo pendant les 94 dernières années. Par contre, au niveau commercial, on est conçu comme positionné comme un start-up au niveau d'un fabricant automobile. Les racines de la marque proviennent du sport automobile originalement.
Ouais, parce que Polestar, quand on avait des modèles Volvo sportifs avec les suspensions Ohlins, avec toutes les groupes performance, on appelait ça les versions Polestar assez souvent.
Exactement, c'était le segment de performance de Volvo avant de devenir sa propre marque électrique qu'on connaît maintenant. On a lancé en fait en octobre 2017. Comme notre propre marque. Puis notre première voiture de série à ce moment-là, c'était la Polestar 1, qui est une hybride GT de performance.
Oui, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de rouler. D'ailleurs, vous avez une édition finale parce que ce modèle-là va se retirer là, dans les prochains mois. Là.
Oui, absolument. On l'a introduit en 2017, puis ça coïncidait avec les débuts de la marque. Comme j'ai mentionné plus tôt, c'est un électrique hybride GT qui produit 119 chevaux avec une carrosserie unique, entièrement en fibre de carbone. Elle détient la plus longue autonomie dans la gamme des véhicules hybrides avec environ 100 km d'autonomie sur la batterie pure. On a planifié de produire seulement 1500 unités dans le monde sur 3 ans. Puis l'année de production finale, c'est 2021. Donc, on a introduit un modèle d'édition spéciale au salon de Shanghai, comme tu as mentionné.
Oui, bien, il y a quelques semaines à peine, là, c'était 21 ou 28 avril, le salon de Shanghai, là, c'est ça?
Exactement. Ces 25 unités sont déjà... les ventes sont déjà épuisées.
OK.
Est-ce que c'est vendu des Polestar 1 au Canada?
Oui, absolument. Oui,
quelques-unes. Oui,
ouais. Ouais. Oh, oui, absolument.
Je sais que la 2, elle, était en demande, mais l'un, j'ai jamais eu de chiffre, je sais pas.
Oui, la Polestar 2, elle a été introduite en 2019. C'est notre première voiture 100% électrique, propre à grande diffusion, à grand volume. Oui, évidemment, on va voir de Polestar 2 sur les routes.
J'imagine, Hugues Bissonnette, que d'arriver avec une compagnie nouvelle de voitures pratiquement en pleine pandémie, ça doit avoir donné un certain nombre de défis à relever.
Oui, définitivement. C'est certain qu'à certains niveaux, on peut penser aux salles d'exposition, par exemple. On a eu certains retards au niveau du lancement de ces salles d'exposition-là. On a une à Vancouver, on a une à Toronto et non une à Montréal. Mais par contre, ça a ouvert d'autres opportunités aussi. On a un modèle de vente au détail qui est entièrement numérique. On a lancé des essais routiers à la maison, par exemple. On offre un service de cueillette-livraison pour le service. On a aussi, si on regarde au niveau de l'Amérique du Nord, l'expansion du réseau des concessionnaires va s'étendre à 21 points de vendre d'ici la fin 2021, dont trois au Canada.
OK. Donc, si je comprends bien, pour le moment, c'est plus des boutiques qu'on retrouve au niveau de Polestar. Et vous envisagez tranquillement d'avoir des endroits, là, comme on dit, avec du brique et de la brique et du mortier, où il va y avoir physiquement des véhicules à vendre et du personnel?
Pas dans le cas du marché canadien. Okay. Au Canada, on a que trois boutiques, Vancouver, Toronto et Montréal, où les gens peuvent expérimenter le produit et peuvent en faire l'essai routier sur place aussi et en prendre livraison au même endroit ou prendre livraison soit à la maison. Mais ça va rester des boutiques soit en centre d'achat ou pignon sur rue dans des endroits où vous pouvez imaginer où les gens vont se divertir, près des restaurants, des boutiques de détail, etc.
La Polestar 2, bon, c'est une berline, disons, intermédiaire, qui est vendue à environ 70 000 $ qui fait, je pense, oui, 375 km par charge environ. Comment vous la positionnez? Parce que ce n'est pas une marque, vous n'êtes pas Chevrolet, vous n'êtes pas Tesla non plus. Où est-ce que vous vous situez dans le marché des voitures électriques?
Bien, on peut dire que Tesla, c'est définitivement Tesla Model 3, en termes de gabarit, en termes de positionnement de prix, c'est définitivement un compétiteur direct à la Polestar 2. Mm-hmm. Et ils introduisent différentes variantes. À 70 000, c'est notre version de lancement qui est complètement équipée. Par contre, d'ici la fin de 2021, on va introduire deux nouvelles variantes de la Polestar 2 qui vont être positionnées dans le marché pour compétitionner directement avec les modèles d'entrée de la Tesla Model 3.
Donc, on parle de véhicules plus abordables?
Absolument. Wow, absolument. Okay. On peut penser à peut-être même se positionner pour les gouvernementaux du gouvernement du Québec et de la Colombie-Britannique.
Ah, ça serait okay. Très bien. Ça fait, ouais, c'est un gros différenciateur, j'imagine, au niveau de la vente, là, parce que vous avez déjà commencé à vendre au Québec. Ça va accélérer les ventes, en fin de compte.
Oui, absolument.
Là, on parle évidemment pour le moment avec la disparition du Polestar 1 qui va nous quitter avec la fin de l'édition spéciale. Il y a le Polestar 2, mais on parle aussi d'un Polestar 3. Pour venir un peu garnir la gamme, parce que évidemment c'est difficile pour une compagnie de vivre sur un modèle. Est-ce qu'on a un peu plus de détails sur ces modèles-là à venir et de quoi ça va avoir l'air?
La Polestar 3, c'est un SUV de performance électrique qui va arriver bientôt dans notre portefeuille de produits Polestar. On a aussi le Precept que vous avez vu en forme,
oui,
de concept.
En concept, effectivement.
Qui va aussi joindre le portfolio des produits Polestar qui va arriver bientôt sur le marché canadien. Precept, on peut penser, c'est la vision de l'avenir de la marque en termes de développement durable, en termes de design, puis en termes de technologie numérique. Mais regardez le Precept et le DNA du design va se traduire aussi au niveau de la Polestar 3.
OK. Et ce sont deux modèles qui vont être aussi 100% électriques?
100% électriques.
OK. Donc, on s'en va parce que, bon, le Polestar 1, on le sait, c'est un hybride rechargeable, branchable. Mm-hmm. Là, on s'en va uniquement dans l'électrique pour les modèles à venir.
Absolument. Puis comme vous pouvez constater, on étend le portfolio de produits dans plusieurs segments, évidemment, qui sont populaires auprès des consommateurs canadiens, québécois.
Vous vous distinguez de Volvo, vous ne vous identifiez pas à la marque Volvo nécessairement. Comment vous vous situez? Parce que ça doit être difficile de faire parler de vous. Là, vous êtes une nouvelle marque. Vous êtes en mode start-up, vous l'avez dit en début d'entrevue. Est-ce que oui, ça doit être un genre de défi assez particulier? Avez-vous une vision à long terme d'où vous voulez vous situer, disons dans 5 ans, par exemple?
Bien, définitivement, on veut être un fabricant de véhicules électriques de performance reconnu dans le marché canadien. On positionne notre réseau de concessionnaires pour aller chercher les parts de marché qui sont en ligne avec nos ambitions. On sait, encore une fois, on a parlé de start-up, mais on a 94 ans d'expérience en termes de design, d'industrialisation. Donc, les véhicules qui sont sur la route aujourd'hui sont fabriqués avec qualité. La qualité de fabrication des matériaux est là dès le départ. Donc, c'est seulement de faire la reconnaissance de la marque, mm-hmm, s'assurer d'avoir un réseau de concessionnaires qui nous représente bien au pays. C'est une stratégie de commercialisation qui est très différente de celle de Volvo. On est entièrement numérique. On est 100% électrique dès aujourd'hui. Puis une diffusion limitée en termes de concessions aussi.
Dites-moi, Hugues Bissonnette, au niveau de la recherche, du développement, tout ce qu'on utilise qui sert dans les produits Polestar, est-ce qu'éventuellement, c'est de la technologie qui pourrait être partagée avec de futurs produits Volvo?
De part et d'autre, oui. En ce moment, vous comprenez que la Polestar 2, il y a certaines composantes, la plateforme, dont la plateforme CMA, qui est partagée avec le Volvo XC40 Recharge. Par contre, dans le futur, il y a des technologies qui sont développées propres à Polestar qui vont peut-être être utilisées dans d'autres marques du groupe Geely qui contient des marques bien au-delà de Volvo sur le marché chinois.
Sur le marché chinois, entre autres, oui, parce que Geely a une présence assez forte sur le marché chinois, là.
Sans aucun doute.
OK. Il y a un truc que j'aime beaucoup de Polestar du côté technologique, c'est la je sais pas si on peut parler d'un partenariat, mais la technologie embarquée qui vient de Google, le service Android qui est embarqué nativement dans le système multimédia, qui est quand même assez chouette pour les gens qui, tu sais, parce qu'on reconnaît Tesla pour sa portion connectée souvent. Puis l'approche Polestar qui est un petit peu partagée avec Volvo, j'ai l'impression, au niveau des applications embarquées, est assez le fun. Est-ce que vous voyez s'évoluer vers un système de conduite plus sophistiqué en termes d'aide à la conduite, des choses comme ça, ou c'est strictement du multimédia ce que vous faites avec Google?
Non, ça évolue très, très rapidement, comme vous pouvez le constater, mais je pense que c'est la facilité d'utilisation. On veut rendre la vie facile à nos clients, non seulement dans le processus d'achat, dans le processus de service au niveau du véhicule, mais aussi dans le processus d'utilisation. Puis vous allez constater, si vous n'avez pas déjà conduit le véhicule, puis vous êtes Benoît, entre autres, Alain, vous conduisez plusieurs véhicules à chaque semaine. Vous entrez dans une Polestar 2, vous sentez déjà à l'aise dès les premières minutes.
Oui, c'est vrai.
C'est une belle voiture, il n'y a aucun doute.
En fait, on a conservé le côté épuré et confortable des modèles Volvo. Ça, on le remarque en prenant place à bord de Polestar. On voit d'où vient l'ADN. Et c'est un véhicule qui, effectivement, qui est très... Moi, j'ai dit, c'est très zen. On se sent relax à bord du véhicule.
Il y a un exotisme scandinave à bord.
Oui. Un côté... Moi, j'aime le côté épuré de la chose. Dernière question, Hugues Bissonnette. Comment se classe le marché canadien à l'échelle internationale pour Polestar? C'est-à-dire qu'on le sait, le marché canadien n'est pas le plus gros en termes de nombre, mais quelle importance ça peut prendre pour qu'on puisse faire sa place du côté de chez Polestar?
Bien, le Canada, c'est une priorité pour la marque. D'ailleurs, c'est un des rares marchés de lancement à travers le monde. On a lancé dans 9 marchés en même temps,
okay, dont le Canada. Ah oui, dont le Canada quand même.
Dont le Canada, puis on connaît les résultats des ventes de véhicules électriques au Québec et en Colombie-Britannique, où évidemment, il y a des incitatifs gouvernementaux, mais définitivement, on sait qu'il y a une opportunité, puis on veut prendre les parts de marché dans le marché canadien. Donc, la priorité a été mise, puis c'est pourquoi on était l'un des 9 marchés à lancer dès le départ. On a 3 espaces qui sont actuellement ouverts, comme j'ai mentionné plus tôt. Puis ça couvre 95% du marché adressable pour Polestar pour le Canada en ce moment.
À Montréal, on est au centre-ville. Où est-ce que vous vous situez?
En ce moment, on a une boutique temporaire au Carrefour Laval.
Oui, OK, j'ai vu.
On expose 2 véhicules. Possibilité d'essai routier. Le but, c'est de s'installer de façon permanente au centre-ville de Montréal.
Ouais.
Toronto, on est au centre-ville, puis à Vancouver, même situation.
Même principe, d'accord.
Ouais, ben,
un grand merci, Hugues Bissonnette, pour le temps que vous nous avez consacré, et on va se reparler quand on aura roulé la Polestar 3, le Precept, les prochains modèles. On a bien hâte. On a une liste, mais on va se tenir au courant.
Ça me fait extrêmement plaisir.
Merci beaucoup, Hugues.
Au revoir.
Alors
merci,
voilà, c'était Hugues Bissonnette, qui est le responsable pour le Canada de la compagnie Polestar. Nous, on va rapidement une pause et on vous revient avec nos essais routiers.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Bon, en essai routier cette semaine, mon cher Alain, on s'adresse aux familles, mais le budget n'est pas le même.
Pas toutes les familles, non.
Pas
non,
toutes les familles, puis c'est pas nécessairement la même grosseur de famille.
Non. Écoute.
Mais on est dans les VUS et les fourgonnettes, mais les fourgonnettes qui se prennent un peu pour un VUS, mais ça, je vais y revenir.
Exactement.
Un peu maquillé. Toi, de ton côté, tu as essayé un véhicule qui, je ne suis pas un amateur de VUS, je le souligne d'entrée de jeu. Mais j'avoue que ce modèle-là m'a beaucoup plu.
Ben, tu fais bien de le spécifier parce que de moins en moins, nous serons en général des fans des VUS vu l'impact. Il y a des études là-dessus qui sont assez fascinantes, mais on y reviendra un autre jour. D'ailleurs, on ne reviendra pas non plus sur les raisons pour lesquelles les VUS sont si populaires au Canada. Sinon, pour dire que même les constructeurs se voient parfois, malgré eux, obligés d'embarquer dans le jeu. Je pense que c'est un peu le cas de Porsche quand ils ont lancé leur premier Cayenne au début des années 2000.
Oh mon Dieu, l'hérésie!
Écoute, les ingénieurs admettaient eux-mêmes ouvertement ne pas avoir eu le choix pour hausser les ventes de la marque afin de générer les revenus nécessaires pour investir dans l'amélioration de ces voitures, c'est le 911, Cayman, Boxster et ainsi de suite.
Et dites-vous que la Porsche Carrera GT a existé parce qu'on a vendu beaucoup de Cayenne.
Exactement.
Alors, que ceux qui aiment moins les VUS puissent au moins remercier Porsche d'avoir créé un modèle comme la Carrera GT.
Ben, moi, je veux remercier Porsche d'avoir créé le Cayenne parce qu'à l'époque, ça m'a permis de conduire avec Guy Lafleur.
Ah, ben quand même!
Qui était quand même, et je ne l'attendais pas du tout. Donc, j'ai rencontré une légende vivante et j'en étais très heureux. Alors, je salue M. Lafleur. Bonjour. Mais évidemment, depuis chez Porsche, bon, ça a évolué. Là, on s'entête d'ailleurs à vouloir prouver qu'un VUS peut avoir le comportement routier d'une berline sportive. Et c'est là qu'entre en scène la version GTS coupée du Cayenne, sans conteste le VUS le plus près d'être une berline sportive sur le marché. Ça, c'est mon avis très personnel, mais je pense que je suis pas loin de la vérité.
Je suis assez d'accord avec toi là-dessus.
Merci. Évidemment, son prix démarre, il faut y penser, à 128 000 $ oui, mais on peut rapidement monter au-delà des 150 000, là, on le sait, hein, les Allemands et les groupes options d'options,
160, ouais, chez Porsche, chez oui. Porsche, 10 000 $ d'options, là, c'est tu fais un oubli, puis t'en as pour 12 000.
C'est un porte-gobelet, exactement.
Oui, c'est ça.
Évidemment, bon, c'est beaucoup, mais c'est moins que le Cayenne Turbo, cela dit, qui a quand même un minimum de justificatif juste là. Et je dis ça aussi parce que je compare avec le turbo, parce que pour les connaisseurs, c'est intéressant de le savoir. Le GTS coupé a droit au même V8 biturbo que le Cayenne Turbo, justement.
Ça, c'est intéressant parce qu'on a ramené le 8 cylindres dans le GTS.
Exactement.
Parce que pendant un certain temps, il y avait un 6 cylindres turbo.
Exactement.
Et on manquait le vroom-vroom plutôt intéressant du V8 chez Porsche.
Ça fait partie de l'expérience, effectivement. Sa puissance dans le cas du GTS coupé est un peu réduite par rapport au turbo. 453 chevaux plutôt que les 541, je pense, dans l'autre version.
Mais 453, vous vous ennuirez pas.
Ah non,
vous
exactement.
Ça
non,
comme
non.
Ça, là.
Ben, regarde, son couple maximal, c'est 457 livres-pieds. Il arrive, comme c'est un V8, là, on peut aller chercher très bas en régime, ce qui est une particularité des gros moteurs, disons-le comme ça. Ça permet de faire accélérer le VUS de gros format, disons-le quand même, de 0 à 100 km/h en pas tout à fait 5 secondes, ce qui est dans ce contexte-là assez exceptionnel.
Ben oui, on est dans des chronomètres de voitures exotiques.
Exactement.
Là. N'importe quoi qui est 5 secondes et moins, là, ça va très vite.
Exactement. Avec les modes sport et sport plus qui altèrent le comportement de la boîte automatique à 8 rapports, je pense que ça l'a fait même baisser à 6 rapports. De la suspension et de l'échappement qui sont aussi modifiés, vous héritez d'un VUS qui gronde comme une vraie, de vraie Porsche. Puis ça, c'est évidemment assez grisant, on peut pas le nier. Ce modèle est probablement le Cayenne le plus amusant à conduire, à mon avis, encore une fois, très personnel, et le plus près de ressembler à une berline Porsche dans son comportement. Comportement routier, d'ailleurs, irréprochable. Gros bémol, par contre, puis c'est un peu prévisible, sa consommation est assez élevée. Entre 12 et 15 litres au 100 km, selon comment vous conduisez, ce qui est évidemment 20-25% plus que ce qu'on peut imaginer d'un VUS de taille comparable qui est moins prétentieux côté sportif, donc qui a moins de prétentions sportives. Aussi, comme c'est un coupé, malgré tout, le rangement n'est pas optimal. Le coffre, évidemment, souffre de la courbe de toit prononcée à l'arrière.
Ouais.
La banquette aussi, elle est séparée en deux places seulement par une espèce de grosse et très inutile console centrale.
Oubliez le troisième passager à l'arrière. Là,
exact.
Il va être assis sur une espèce de morceau de plastique avec deux porte-gobelets.
Ben, il va être assis exactement sur un porte-gobelet. D'ailleurs, parlant de console, le Cayenne marque aussi une cassure pour Porsche depuis bon presque 20 ans, on le disait tout à l'heure, pour une raison bien simple, parce que justement, il tient compte de certaines notions d'utilité et de confort, ce qui n'est pas nécessairement apparent dans tous les autres véhicules de Porsche. Et la preuve, c'est justement l'existence de porte-gobelets bien en évidence partout dans l'habitacle.
Oui, ce qui n'est pas très allemand comme approche.
Non, exactement, c'est un choc culturel pour eux quand ils ont
découvert
ça.
Parce que les Allemands, moi je me souviens, la réponse textuelle d'un ingénieur de Mercedes il y a, mettons, 25 ans, c'est avant les années 2000, et on lui avait dit... Pourquoi vous n'avez pas de pro-gobelet? Il dit German drivers don't drink when they drive. j'avais trouvé ça absolument succulent.
Ça, c'est un beau choc culturel, effectivement.
Oui.
Toujours à bord du Cayenne, beaucoup de surface tactile, beaucoup de réglages. C'est très allemand dans sa approche. Il y a des boutons partout. Puis ce sont, dans bien des cas, c'est une grande surface tactile avec une espèce de rétroaction, on s'appelle du haptique, là, donc il fait un petit déclic quand on appuie.
Ça vous saute sur le doigt.
Exactement.
Là.
C'est pas une qualité, c'est pas nécessairement la meilleure ergonomie, mais ça fait partie de l'expérience Porsche. Alors disons qu'on va l'excuser comme ça.
Oui, ça fait partie de l'expérience d'un peu trop de constructeurs à mon goût.
T'as tout à fait raison. Cela dit, bon, tout le monde qui rêve d'une 911, mais qui désire un peu d'utilité, peut regarder du côté du Cayenne GTS coupé, évidemment à condition d'avoir le budget, ça revient toujours à ça.
Oui.
Ça reste, à mon avis, le meilleur meilleur compromis de la gamme côté puissance, comportement routier et utilité. Sans revenir sur le débat du VUS.
En fait, c'est un véhicule utilitaire sport. Petit U, ouais, gros S.
Gros S, exactement. Et puis, je veux dire, si vous hésitez, là, rappelez-vous toujours que s'il n'en tenait qu'aux ingénieurs de Porsche, ce véhicule-là n'existerait pas.
Ah ben oui, on a été obligé de suivre la parade à une certaine époque, et là, ce qu'on a tenté de faire, c'est de rapprocher les VUS le plus possible de l'expérience de conduite d'une berline. Mm-hmm. C'est un peu ça le but derrière, et c'est correct, il y a une clientèle pour ça. Il y a des gens qui vont à l'opposé chercher le confort, le plus grand confort possible, où il n'y a aucune tenue de route. Mm-hmm. Puis il y a des gens que la tenue de route, c'est la dernière chose qu'ils recherchent dans un véhicule.
Un bon compromis, c'est un Cayenne GTS coupé plutôt qu'un Cayenne turbo, avec un vélo ou deux vélos électriques que Porsche vend 10 000 $ pièce. Et là, vous faites moins de route en voiture, plus en vélo. Donc, vous réduisez votre consommation. Tout le monde est gagnant.
Oui, à moins le budget est le mot clé ici.
Ouais, ben votre banquier va être heureux aussi, c'est sûr. Absolument. Oh oui, c'est
alors moi, je suis dans un véhicule qui est à peu près, qui est ailleurs,
qui est littéralement ailleurs, oui.
Qui est ailleurs, qui en fait, qui est la fourgonnette Carnival. Bon, ça s'écrit Carnival, N-I-V-A, Carnival, un carnaval, littéralement, ouais. Qui est un modèle qui existe depuis des générations du côté de l'Asie, qu'on avait eu même en Europe, mais qu'on n'a jamais eu ici. C'était la Sedona qu'on avait. Mm-hmm. Et là, on a remplacé la Sedona et on est vraiment, là, on est dans le tout nouveau. Là. Ça a plus rien à voir avec un Sedona. On y a même donné un style un peu utilitaire. Bon, on a gardé les ingrédients de base d'une fourgonnette. C'est-à-dire que vous avez deux portes coulissantes, vous avez 7 places, c'est-à-dire que c'est un 2-2-3. Mm-hmm. Et on a la dernière rangée de sièges se couche dans le plancher, mais pas la deuxième. La deuxième, vous pouvez enlever les sièges, mais bonne chance, là, il n'y a pas de façon facile de le faire. Donc, si vous voulez faire, par exemple, comme un Grand Caravane ou un Pacifica, qui ont le système Stow and Go. Mm-hmm. Où on couche la deuxième et la troisième rangée dans le plancher. Vous pouvez transporter des 4x8. Bon, je sais pas s'il y a encore bien du monde, surtout avec le prix du bois de ce temps-là. Il y a peut-être moins de monde qui transporte des 4x8 qu'avant, mais on peut littéralement transformer sa fourgonnette en camion de déménagement. Là. Mm-hmm. Ça va être plus difficile avec le Carnival. Par contre, on donne une chance, c'est-à-dire que les sièges de deuxième rangée coulissent vers l'avant. On peut les amener plus loin pour libérer de l'espace supplémentaire.
La Sienna fait ça aussi chez Toyota.
La Sienna fait ça du côté de chez Toyota. Ce qu'on a comme mécanique, c'est un V6 3,5 litres qui fait 290 chevaux, 262 livres de livres-pieds de couple, avec une boîte à 8 rapports. Donc, de ce côté-là, on est moderne. C'est des moteurs qu'on retrouve là ailleurs chez Kia, chez Hyundai. On n'a pas réinventé la roue pour mettre un moteur sous le capot. Mais on peut remorquer 3500 livres. Les gens vont me poser la question, qui est correct. Mm-hmm. La puissance du moteur est bonne. Par contre, on sent le poids du véhicule quand on conduit. C'est un véhicule qui est assez lourd et l'amorce de freinage, c'est un peu spongieux. Il faut appuyer, il faut y donner un bon coup pour sentir le frein embarqué. L'aménagement intérieur, c'est bien. Toutes les commandes sont bien en vue, à défaut d'être bien situées, parce qu'il y a certaines commandes qui sont en bas du tableau de bord. Il faut réellement se pencher puis quitter les yeux de la route pour trouver la commande. Ça, moins d'accord avec ça. Ça devrait être à portée de main, puis qu'on puisse le trouver en roulant. Il y a des commandes, tu parlais de commandes haptiques tantôt, des commandes capacitives, là, qui est l'autre mot qu'on utilise.
Oui, ben oui.
C'est correct, c'est pas mauvais, mais moi, là, le volume avec un bouton, tu tournes.
C'est un classique, ben oui, ça devrait pas changer.
Mais ça, on a atteint, j'ai l'impression, moi, le 100% quand on est arrivé là. Tout ce qui se fait qui n'est pas ça, c'est pas 100%. Alors moi, ça devrait demeurer la mesure étalon. On devrait toujours partir de ça, dire, bon, est-ce que c'est nécessaire? Et il faut les étudier. L'écran fait 12,3 pouces qui trône en plein centre du tableau de bord. Ça va bien de ce côté-là. Le confort des sièges est bon aussi. On a à peu près conçu les sièges de deuxième rangée comme ceux de première rangée. Bon, moi, j'avais un modèle mieux équipé, là, les modèles haut de gamme, où on peut finalement reculer le dossier, baisser, monter le siège dans la deuxième rangée comme dans la première. Ah oui. Donc ça, le confort est excellent à ce niveau-là.
Il n'y a strictement aucune banquette au milieu. Là.
C'est deux sièges. Puis il y a de la place derrière, troisième rangée, puis une vraie troisième rangée. Là. Le véhicule est grand. Là. Donc
oui,
c'est
carré, d'ailleurs.
Oui. Puis on peut installer des adultes à l'arrière. Bon, c'est jamais la place idéale pour des adultes à l'arrière, mais si vous êtes 6, Tout le monde va être heureux dans le véhicule. C'est assez grand pour ça. D'ailleurs, c'est le plus grand attrait des fourgonnettes. Des fourgonnettes, les gens ont beau acheter, dire « Ah, je vais acheter un VUS qui est une alternative », ça. Mais ça demeure toujours une alternative. Il n'y a rien de plus pratique qu'une fourgonnette. Je sais que ce n'est pas les véhicules les plus sexy, mais ça demeure très pratique. Puis c'est un peu pour ça qu'on a voulu donner un style un petit peu VUS au Carnival pour peut-être dire, bon, le père de famille qui refuse systématiquement de se voir au volant d'une fourgonnette va peut-être accepter de se montrer au volant d'un Carnival. Puis c'est un peu l'idée de ça. D'ailleurs, la position de conduite est un peu plus VUS que fourgonnette parce qu'on est assis légèrement plus haut. Mm-hmm. Donc, une position qui nous rappelle un peu celle d'un VUS. Il y a des petits irritants. Bon, l'écran, on parlait d'écran tantôt de 12,3 pouces, l'écran revient automatiquement à un écran d'accueil après quelques minutes. Donc, si on place, par exemple, notre poste de radio préféré, 98.5, évidemment,
ben, ça va sentir.
Au bout de quelques minutes, pouf, vous revenez à un écran, revenez à un écran d'accueil.
Ah bon?
Et là, il faut refaire le menu pour retrouver la radio. Pourquoi? Si vous voulez, bon, je ne sais pas moi, la navigation, quand vous ne la prenez plus, pouf, elle va disparaître. Fait que ça, il y aurait des petits ajustements à faire parce que c'est un petit peu tannant. Bon, les aides à la conduite, on ne passera pas au travers, mais tout le monde est présent. Là.
J'ai deux questions là-dessus. 4 cylindres, 4 roues motrices, il me semble que c'est des affaires qui auraient pu...
Oui, mais là, pour le moment, je ne dis pas qu'il va y avoir d'autres modèles.
Mm-hmm.
Ce qu'on nous sert pour le moment, c'est du 6 cylindres. Et honnêtement, bon, à moins qu'on ait un 4 turbo, mais considérant le poids qui est assez important, le 6 cylindres pour le moment me semble le moteur qui va faire le meilleur travail avec ce genre de véhicule-là. Et là, évidemment, on ne positionne plus le Carnival comme une fourgonnette moins chère que la compétition.
Ah.
C'est le prix de la compétition, mais on en offre plus. Alors là, j'ai hâte de voir comment cette approche-là va fonctionner pour Kia, parce que le modèle qu'on avait est à plus de 50 000 $, 50 799 $. Donc, c'est le prix d'une Odyssey, c'est le prix d'une Sienna, bien équipée.
Mm-hmm.
Mais on a, honnêtement, l'équivalent. Il manque 4 roues motrices, mm-hmm, qui feraient probablement le travail. Mais on a un véhicule qui se compare en tout point. Est-ce que les gens, maintenant, vont payer le même prix pour aller chercher un Kia? Il faut pas oublier que la garantie est de 5 ans, puis tout l'équipement arrive de série. Il y a pratiquement pas d'options dans le modèle qu'on avait. Donc ça, c'est un incitatif qui peut être intéressant pour beaucoup de gens.
Ça va être à suivre.
Ça va être à suivre. Alors voilà, ça complète un peu. La semaine prochaine, j'ai un Mercedes GLA. Ça va être notre essai de la semaine prochaine. Puis je vais parler un petit peu du Silverado 2500 que j'ai eu en essai, le HD.
Okay.
Pour ceux qui aiment ça, dans les formats extra, extra.
Dans la boîte duquel tu pourrais mettre ton GLA.
Voilà. Oui. Alors, et on va avoir Louis-Martin Jeannard de chez Canada Motor Jal qui va venir nous parler de
l'emploi
dans le monde automobile.
Ouais.
Alors là-dessus, ben, merci d'avoir été là. Je vous dis, passez une bonne semaine. Merci Alain.
Et
nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ça tient la route. Salut bien.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.